Vous écoutez Quad Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Pauline Verdusier.
C'est parti!
Si l'on tape dans Google « porno pour femmes », on trouve 50 nuances de grey ou bien des romances à l'eau de rose. Alors la pornographie féministe, est-ce que ça marche? Est-ce excitant? Comment la trouver? Et surtout, comment la définir? On va en parler cette semaine avec Pauline Verdusier. Salut!
Salut Clémentine masquée.
Ça va?
Ouais. Non, en fait. Non, j'en peux plus du confinement, j'en peux plus de la fermeture des lieux culturels. D'ailleurs, aller aux AG et aux occupations menées par les personnes du secteur dans les théâtres, comme à celui de l'Odéon. Et je propose qu'on se mette toutes et tous à poil devant les théâtres, comme la comédienne Corinne Massiero au César. Voilà. Et toi?
Merci pour cette super proposition. Oui, d'ailleurs, on rappelle que son corps de femme ayant passé la trentaine a fait jaser dans la presse, malheureusement. C'est un peu pathétique.
Il se disait, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? C'est naze. Oh putain, l'autre avec sa peau d'âne, pour qui elle se prend? C'est même pas drôle. Bon, moi, je t'avoue, mettre le truc de peau d'âne, je me suis dit, chic, chic, chic. Et là, très vite, dans ma tête, je me dis, comment je vais pouvoir putcher? Évidemment, il ne faut jamais dire une action, tu ne dis pas ce que tu vas faire, sinon ça ne marche pas. Hein. C'était de montrer qu'on était à poil, il faut vraiment le faire, sinon ça n'a aucun sens. Ce dont on parle le plus, c'est de mes vieilles fesses en ruine, en train de faire, et de mes nichons qui tombent, en train de marquer nos futurs, nos cultures, tu vois. Mais ce qui est génial, et ça je suis contente parce que c'était le but, c'est qu'on en parle. La preuve, c'est que tu es là. La preuve, qui c'est qui est venu aujourd'hui? T'avais même une télé autrichienne.
Ouais. Écoute, moi, je fête dignement les 150 ans de la commune, n'en déplaise à la mairie de Paris. Donc voilà, pour passer un petit peu aux news féministes, les nominations aux Oscars sont tombées et c'est une grande première. Deux femmes sont nommées dans la catégorie meilleure réalisation. C'est Chloé Zhao et Emerald Fennell. J'espère qu'on aura l'occasion de parler de leur film. Et la comédienne Viola Davis connaît un nouveau record puisque c'est la comédienne noire la plus nommée dans cette catégorie aux Oscars. Donc on est ravis pour elle.
C'est clair. Quoi ça, c'était pour les bonnes nouvelles.
Aux États-Unis, oui.
Alors, aux États-Unis, quelque chose de très grave s'est passé. Il y a eu des attentats contre des personnes asiatiques à Atlanta, dans des spas et des salons de massage. En fait, c'est une fusillade qui a fait 8 morts, dont 6 femmes d'origine asiatique. Et le tueur est un homme blanc, sans surprise, qui a dit être sex addict. Est-ce une justification?
Bon. Non.
Et cet attentat s'est produit dans un contexte de recrudescence des crimes xénophobes contre les personnes asiatiques depuis le Covid.
Voilà, j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir. Alors parlons du sujet qui nous occupe aujourd'hui, la pornographie féministe.
Oui, donc aujourd'hui on va parler des explorations et des débats actuels autour des conditions de création d'un porno éthique, féministe, inclusif. Donc on va parler de représentation, de conditions de tournage, de différentes théories féministes sur la production pornographique et on va évoquer des initiatives qui existent dans ce domaine et le travail de certaines réalisatrices et performeuses qui essaient de se distinguer des pratiques du porn mainstream. Donc, oui. C'est quoi l'actu porno dans ce domaine, Clémentine?
Alors, c'est la minute actualité de la pornographie. Sachez que la consommation de porno a d'abord explosé avec la crise du Covid, c'est pas une surprise, et que pendant ce temps, les acteurs et les actrices, en tout cas pour certains et certaines, ont continué à tourner dans des films pendant la pandémie, ce qui n'a rien d'évident. Dans le même temps, le gouvernement français est en train de lancer un site pour protéger les enfants de ces contenus sur Internet. Vous pouvez le retrouver à l'adresse jeprotegemonenfant.gouv.fr. Et aux États-Unis, sachez également que le porno est devenu la principale source d'informations sur la sexualité pour les adolescents et les adolescentes américains et américaines. Selon une étude de la Boston University School of Public Health et de l'Indiana University School of Public Health, donc on a longtemps pensé que ça pouvait être un cliché, mais cela semble assez vrai pour l'instant. Et enfin, on annonce la ressortie en fanfare du magazine féminin équivalent de Playboy, qui s'appelle Playgirl, qui a été fondé en 1973 et qui donc est ressorti aux États-Unis en version papier. Et à la base, on le connaissait surtout pour ses nus masculins, donc ça changeait un petit peu. D'ailleurs, il y avait tout un lectorat gay en plus du lectorat féminin. Et aujourd'hui, ce sont des corps nus assez variés et de tous les genres qui sont représentés avec des articles sur des questions intersectionnelles. Voilà, on espère qu'on pourra le lire en France.
Ouais, j'ai envie de le lire.
Petit point historique.
Oui, donc si on remonte un peu l'histoire des liens entre porno et féminisme, on trouve d'abord un gros clash états-unien entre féministes, justement, autour de deux courants de pensée très opposés sur le sujet du travail du sexe. En fait, le porno en particulier a cristallisé une scission majeure au sein du mouvement féministe. Ça reste un sujet très fort de désaccord, tout comme le voile et la prostitution. Et c'est parti de là, en fait.
Oui, et donc, à la base, il y a certains discours qui considèrent que le porno ou la prostitution serait par essence hétérosexiste et dégradante. Il y a eu donc toute une critique assez virulente de la production pornographique par certaines théoriciennes féministes radicales aux États-Unis, notamment un courant féministe anti-porno qui s'est consolidé à la fin des années 70 et dans les années 80, qui s'appelait WAP, donc Women Against Pornography, et non pas Wet Ass Pussy comme dans la chanson. Et même Linda Lovelace, l'actrice de Gorge Profonde, a fini par rejoindre ce mouvement après avoir révélé avoir été forcée à tourner par son mari, qui l'a battée et qui l'a violée. Voilà pour le tableau.
Linda and Mike McGrady finally signed a deal with Lyle Stewart, who insisted that Linda pass a lie detector test on the veracity of her accusations. Conducted by respected polygraphist Nat Larendi, the test included questions about Chuck Traynor's prostitution business, the beatings Linda claimed she had received, and the use of firearms on the set of the infamous Dog movie.
Et donc, à la base de la formation du groupe, il y a des actions de féministes et des manifestations dans les quartiers rouges ou devant les cinémas, notamment à la sortie du film gore Snuff, qui s'est terminé par le meurtre d'une femme enceinte, donc pour en dénoncer la misogynie. Parmi ces manifestantes qui ont donc créé le WAP, il y a des membres fondatrices comme Adrienne Rich, Gloria Steinem et Sherry Haidt. Donc Sherry Haidt, c'est elle qui a écrit le rapport Haidt sur la sexualité féminine qui est encore très important aujourd'hui. Et donc ces féministes ont essayé d'influencer le législateur pour faire interdire les productions de cette industrie, le porno étant considéré comme un médium privilégié des violences faites aux femmes.
We have to think about why it is that we doubt stories of sexual hostage taking or slavery or coercion when we believe the others. And I think it's a kind of version of a rape victim. Right. You know, I mean, 5 years ago we said to rape victims, oh, you enjoyed it, you wanted it, you asked for it. And now we're saying the same things to women who are forced into prostitution or into pornography.
Oui, il faut aussi citer la théoricienne et activiste américaine Andrea Dworkin, qui a été une figure du courant anti-porno, même s'il me semble qu'elle s'est un peu distanciée du WAP. Elle, en fait, en 1981, elle écrit « Pornographie, men possessing women ». Et donc, selon elle, en fait, la violence est inhérente au tournage de ces films et à sa consommation, en érotisant les rapports de domination et en déshumanisant les femmes, selon elle. Et donc, pareil pour Catherine McKinnon, qui définit tout acte sexuel qui implique une différenciation des rôles sexuels comme violent. Donc forcément, le porno l'est aussi par définition dans sa lecture. Elle a aussi cherché à faire interdire la pornographie hétéro, mais également queer. Et donc, en fait, pour ce courant qu'on va dire prohibitionniste, donc qui voudrait une interdiction du porno à l'époque, le porno, en fait, c'est un élément responsable et central dans l'oppression des femmes. Donc bon, aujourd'hui, on a d'autres discours alternatifs, et même à l'époque, on va y revenir, mais c'est vrai qu'elles ont quand même été les premières à pointer du doigt les conditions de travail peu reluisantes et l'absence de diversité de ces productions, qui s'adressaient effectivement majoritairement aux hommes. Par contre, concrètement, ces actions n'ont pas tellement été efficaces, puisque ça n'a pas empêché l'industrie de grossir. Après, dans le discours, c'est des éléments qui sont restés dans certains discours féministes.
Donc, en face, il y a un certain nombre de mouvements qui s'auto-proclame sex-positive, ce qui n'est pas forcément très sympathique pour les autres qui ne sont pas pour autant sex-négatives. En tout cas, voilà, ce mouvement est incarné par des figures comme la féministe américaine Annie Sprinkle, qui était elle-même réalisatrice de films et performeuse, et qui se définissait comme éducatrice sexuelle. D'ailleurs, elle a fabriqué et ou tourné dans des films assez joyeux, assez ludiques, qui prenaient justement le contre-pied de toutes les productions sexistes qu'on connaissait jusque-là. Et son apparition s'inscrit dans le contexte à la fois de la contestation et de la contre-culture, et donc des performances féministes de l'époque. Je pense que vous la connaissez peut-être parce qu'elle organisait des spectacles dans lesquels elle incitait les gens à venir observer de près son vagin et son col de l'utérus avec un spéculum pour apprendre l'anatomie. Et d'ailleurs, ça s'appelait The Public Cervix Announcement, donc une blague sur le service public, je ne sais pas, le service pubic peut-être. Bon.
Le col de l'utérus public,
c'est ça.
I'm sure all of you know what a cervix is and what to look for, right? Well, in case there's one or two that don't, I've drawn up a little chart of the female reproductive system. This is the vaginal canal. Let's all say that together. Vaginal canal. Good. This is the uterus. Uterus. And these are my favorite parts. These are the fallopian tubes. Fallopian tubes.
Ouais, et donc en fait ce mouvement, il a bien sûr grandi, et en fait pour ce courant de pensée, le porno peut constituer au contraire un enjeu de subversion des normes sexuelles. Le sexe peut constituer un travail et le porno peut être le support d'une performance, tout dépend de ce qu'on en fait. Et pour certaines, le corps et le sexe peuvent être en fait des outils politiques et des espaces d'expression. Et donc selon cet argumentaire, en fait censurer le porno, ça irait à l'encontre des libertés, ça participerait même à une marginalisation des minorités sexuelles qui s'en emparent, car elles l'ont fait tout de suite également. Donc, comme vous le savez, le débat continue à ce jour avec des termes un peu différents. On y reviendra.
Oui, alors pour parler de porno féministe, d'abord, il faut partir des critiques de l'industrie traditionnelle du porno telle qu'elle s'est imposée, en tout cas comme un objet culturel majeur dans le domaine de la consommation de vidéos, donc de VHS et aujourd'hui des vidéos sur Internet.
C'est ça. Donc les dérives du porno dit mainstream ont été largement documentées, notamment depuis qu'il est majoritairement gratuit et diffusé sur les tubes, avec des guillemets, c'est-à-dire les plateformes de streaming, par exemple YouPorn, Pornhub, Xvideo, dont certaines sont parmi les sites internet les plus fréquentés au monde d'ailleurs, où il y a aussi les dérives au sein des productions elles-mêmes qui ont été mises en lumière.
Moi qui pensais que c'était le newyorktimes.com le plus fréquenté au monde. Quelle déception.
C'est ça.
Et pour parler de ces débats, justement, on peut aussi citer le documentaire de la réalisatrice Ovidie, qui a été diffusé sur Canal+ en 2017 et qui s'appelle Pornocratie, dans lequel elle documente l'effet du capitalisme sur le spectacle de ses corps, donc l'opacité des pratiques des multinationales derrière ces sites, la délocalisation des tournages dans des pays de l'Est à bas coût, les tarifs à la scène qui s'amoindrissent au détriment des actrices depuis l'explosion des tubes, tu l'as dit, les pressions à aller de plus en plus loin dans des pratiques hard et la manière dont les filles sont ensuite jetées comme des vieux mouchoirs après avoir tourné quelques scènes.
C'est marrant parce que ça ressemble pas du tout à une entreprise pour adultes.
Non, nous pourrions être une banque.
Ovidie vous dévoile le côté obscur du business du X.
Est-ce que les pratiques aussi ont changé ?
Oh oui, c'est devenu plus brutal. Les gens sont devenus fous.
On peut dire, sans se tromper, je pense qu'en France, en tout cas, Ovidie a été une pionnière et une des premières chez nous à évoquer ce sujet des conditions de production du porno. Donc, c'est une féministe matérialiste et on la remercie. Et à avoir analysé les conséquences du basculement vers le streaming dans les années 2000. Donc, c'est un basculement voilà, qui va avoir des conséquences très pratiques sur les conditions d'exercice de ce métier.
Ouais, moi j'aime beaucoup son travail documentaire notamment. Et aux États-Unis, tout ceci est montré également dans le documentaire Coup de poing Hot Girls Wanted, qui est sorti en 2015 de Jill Bauer et Rona Gradus, qui est produit par l'actrice et productrice Rashida Jones.
Oui. We can't ignore that porn today is sex education. I want to show sex, which is much more emotional.
I literally can't stop looking at that screen.
Moi, en tout cas, je me souviens d'une scène où des jeunes actrices témoignaient en fait de comment on leur demandait de plus en plus de pénétrations multiples pour être considérées comme bankable. Moi, ça m'avait perturbée. Mais bon, depuis, les mêmes réalisatrices ont fait une série en fait sur Netflix, Hot Girls Wanted Turned On, pour creuser le sujet. Et elles ont notamment dédié un épisode aux femmes dans le porno.
Oui, chez nous, on a une enquête qui a été publiée aux éditions de la Goutte d'Or. C'est Judy, Lola, Sophia et moi de Robin D'Angelo qui suit le milieu du porno pro-am, c'est-à-dire le porno qui reprend les codes de la pornographie amateur, mais qui reste réalisé et produit par des professionnels. Et donc, tout ça nous raconte les violences qui ont lieu sur les tournages.
C'est ça. Et plus récemment, en fait, en 2020, après plusieurs témoignages parus dans la presse, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour viol et proxénétisme contre Jackie et Michel, le fameux groupe et plateforme de vidéos pro-am française la plus connue, sachant que cette boîte de prod a toujours revendiqué une image entre guillemets « girl next door »,« terroir »,« bon enfant ». Voilà. Alors qu'en fait, la réalité est peu reluisante.
Oui, et surtout, il y a eu un début de mouvement MeToo dans l'industrie du porno avec tout un tas de témoignages d'actrices qui ont raconté le non-respect de leur consentement en tournage et qui ont aussi porté des accusations de viol dans ce milieu, notamment lors de scènes tournées par des producteurs travaillant comme sous-traitants pour Jackie et Michel. Donc, on y revient toujours. À l'origine de ce mouvement, il y a eu des témoignages publiés sur le site de Combini par des actrices qui ont rapporté des pratiques d'intimidation pour imposer certaines pratiques comme la double pénétration ou le sexe anal, ainsi que des pratiques d'acteurs qui ont été embauchés par ces producteurs pour faire du rabattage. Voilà, c'est assez spécifique. Et il faut quand même rappeler que ce sont des associations féministes qui ont signalé ces faits à la justice.
J'ai décidé de faire de la pornographie il y a 6 ou 7 ans. C'était un choix, un espèce de fantasme. Je voulais vivre une expérience, tout simplement. Et je me suis inscrite simplement sur des sites de casting X. Et on m'a contactée. Et 2 semaines après, j'étais à Paris pour tourner mon premier porno.
Un gars que je fréquentais, qui était dans mon cercle amical à l'époque, lui était déjà acteur pour Jackie et Michel, puis il m'a proposé de faire des vidéos. Il m'a dit que c'était l'occasion d'avoir un petit peu d'argent facile.
Donc c'est un mouvement qui a notamment été relayé en France par des performeuses X comme Kim Equinox et Nikita Bellucci qui ont rassemblé ces témoignages et en ont parlé sur les réseaux. Il faut savoir aussi que c'est un milieu où il peut être compliqué de dénoncer les violences puisque les personnes victimes ne sont souvent pas du tout écoutées et qu'elles subissent une double stigmatisation en tant que travailleuses du sexe. On se dit que c'est de leur faute ou qu'elles l'ont bien cherché, je mets des guillemets. Nikita Bellucci a d'ailleurs dénoncé qu'aucune d'entre elles n'a été soutenue publiquement par le milieu. Elle a ajouté que les filles qui parlent se font insulter sur les réseaux sociaux. Comme elles ont tourné dans le porno, elles ne sont pas jugées légitimes à se présenter comme des victimes de viol.
Ouais, c'est vraiment horrible. Parallèlement à l'enquête contre Jackie et Michel, d'ailleurs, 4 producteurs ont été mis en examen pour viol, proxénétisme aggravé et traite d'êtres humains, dont 2 ont été incarcérés, donc Matt Addix et Pascal Hoppe, ce sont des pseudos. Tous 2 ont travaillé pour Jackie et Michel et aussi pour Dorcel, autre société de production porno et leader du secteur en France. Et donc, dans les réquisitions du parquet que Mediapart a consulté et qui repose sur 5 plaintes, donc il y a des accusations de viol répétitif, des actrices qui disent avoir été alcoolisées ou droguées, parfois à leur insu, des mensonges, des intimidations pour les inciter à tourner, etc.
Oui, on a l'impression que c'est un milieu professionnel particulièrement opaque, où les pratiques sont assez cachées, quoi.
Bah, en tout cas, du côté de certains producteurs, effectivement. Ouais. Et donc, on peut aussi citer l'enquête du New York Times qui a révélé que Pornhub hébergeait de nombreux contenus pédocriminels qui mettent en scène des violences et l'exploitation sexuelle de mineurs et d'enfants. Donc, c'est absolument glaçant. On peut ajouter que le porno mainstream repose aussi souvent sur des scénarios racistes, en plus d'être sexistes. Donc là, on finit vraiment de brosser le portrait à l'acide. Donc, on fétichise beaucoup les corps noirs dans ces productions, surtout les corps d'hommes, notamment sous le tag interracial, qui met en scène des hommes noirs avec des femmes blanches. Et pour les femmes, on peut plutôt parler du tag qu'on ne présente plus, qui s'appelle Beurette, et qui exotise les femmes présentées comme étant d'origine maghrébine.
Oui, donc c'est à la fois un stéréotype péjoratif socialement et un tag, donc super.
C'est ça.
Donc une fois que tout ça est dit et que le décor est planté, on peut dire que la démocratisation du porno s'est accompagnée d'une certaine remise en question de son mode de conception, de son appropriation par les hommes pour le plaisir d'autres hommes, mais aussi de l'érotisation de certains rapports sociaux avec des figures qui reviennent souvent dans la pornographie, comme le plombier ou la caïra, je mets des guillemets. Et donc, il y a tout un tas de discours féministes, évidemment, qui se sont développés à son sujet. Ça a permis d'amorcer une vraie réflexion autour de la possibilité d'un porno dit éthique, où les performeuses et les performeurs seraient correctement rémunérés, où les représentations ne tourneraient pas uniquement autour de la soumission des femmes et où le consentement des personnes serait respecté. On espère aussi donc que les pratiques montrées ne soient pas que des corps découpés avec des parties génitales en gros plan, et on espère aussi que le script sexuel majoritaire ne soit pas uniquement fellation, pénétration, éjaculation, donc l'autoroute du script hétérosexiste. Et voilà, idéalement, ces productions s'adresseraient aussi à un autre public qu'aux seuls hommes cis. Voilà, puisque ce ne sont pas les seuls à en consommer, rappelons-le.
Exactement. Et d'ailleurs, entre-temps, de plus en plus de femmes se sont mises à regarder du porno. Donc là, il y a des chiffres qu'il faut prendre avec des pincettes, parce que là, on parle d'une enquête IFOP pour Dorcel, qui a un intérêt marketing à publier ce genre d'études. Selon cette enquête, plus de 8 femmes sur 10 ont déjà vu un film X, ce qui n'est pas tellement étonnant quand on voit l'accessibilité du porno. Mais par contre, 18% des femmes en verraient régulièrement ou de temps en temps, contre toujours quand même 63% des hommes. Il faut aussi rappeler qu'un certain nombre de femmes préfèrent regarder du porno sans femmes, donc du porno gay par exemple. En 2016, les femmes comptaient d'ailleurs pour 37% des vues du porno gay sur Pornhub. C'est aussi fait pour les hommes, mais disons que ça n'exploite pas les femmes. Et apparemment, ça vient notamment du Japon, où on markete depuis longtemps des contenus appelés Boys Love, sous forme de comics ou de mangas, qui s'adressent notamment aux jeunes femmes.
Ah là là, si seulement on avait eu ça quand on était plus jeune. En tout cas, l'encyclopédie du genre explique cette ambivalence de cette manière, je les cite. Les pratiques des consommatrices sont réinscrites dans des processus d'autonomisation sexuelle, ainsi que dans une tension entre fantasme de domination-soumission et aspiration égalitaire. Fermez les guillemets. Donc c'est vrai que le porno illustre vraiment nos contradictions face au rapport de domination, effectivement. Alors, partant de là, à quoi pourrait ressembler un porno féministe ? Déjà, la définition est compliquée à établir parce que beaucoup de monde se revendique du porno féministe et éthique. Sachant que éthique ne veut pas forcément dire féministe et inversement, donc c'est encore plus compliqué. On pourrait se dire que ce serait un porno qui respecte le consentement des performeurs et des performeuses, qui offre de bonnes conditions en termes de salaire et de santé. On parle ici de, par exemple, de tests de dépistage, de l'usage du préservatif. Et en ce qui concerne le volet féministe, un porno qui décentre le regard phallocentré, hétérocentré et blanc pour proposer plus de female gaze. Alors après, certaines personnes du secteur revendiquent aussi un droit au male gaze, tant que c'est fait en accord avec les personnes, on y reviendra. Mais en tout cas, un porno éthique et féministe, ça peut aussi être synonyme d'une collaboration entre réalisateurs, réalisatrices et actrices ou acteurs, une équipe entièrement féminine ou non-binaire, ou du moins sans hommes cis qui vient polluer devant et derrière la caméra.
Et que c'est pour ça qu'il faut de plus en plus apporter un regard neuf, un regard plus inclusif, un regard plus féministe aussi sur la production de pornographie. Le fait d'avoir maintenant de plus en plus de femmes qui passent derrière la caméra, ça permet de revoir complètement les dynamiques en fait de production de films. C'est-à-dire que les regards caméra vont être différents, la façon de filmer le corps féminin va être différent. On va aussi avoir beaucoup plus une mise en avant du plaisir féminin et du désir féminin, une plus grande diversité de corps féminin et masculin. Et ça va arriver qu'il y ait aussi des films où la caméra va s'attarder sur le corps et sur le visage d'un performeur masculin. Et c'est des choses qu'on voit jamais dans la pornographie mainstream.
Ouais, disons qu'il y a beaucoup de discours qui cohabitent sur le sujet. En tout cas, il y a plusieurs figures qui se sont emparées de cette rhétorique et qui ont créé leur propre plateforme payante et leur société de production. Donc l'une des plus connues, vous devez la connaître, c'est la réalisatrice suédoise Erika Lust, qui a notamment notamment créé la plateforme participative payante X Confession, où sont montrés différents types de fantasmes. Alors, le pitch, c'est qu'on peut envoyer son fantasme et elle le réalise. Ça a très bien marché, ça grossit. Elle a ardemment défendu l'idée d'un porno féministe qui s'adresserait à un public féminin. Bon, ça, moi, j'ai parfois un peu de réserve sur ça, parce qu'il y aurait une manière plus féminine, entre guillemets, de regarder du porno. Bon,
mais après... ouais, ça, c'est toute la question de l'écriture féminine, etc., qui peut être parfois essentialiste.
Donc, ouais, c'est ça. Voilà. Alors par contre, moi, ce qui m'intéresse dans son discours, c'est que ce sont des productions assez léchées avec une idée selon laquelle le porno devrait être un objet d'exploration esthétique et artistique au même titre que le cinéma. Donc, ça m'intéresse.
I blamed men. I blamed porn. Oh yeah. Until I came across Hardcore. A book by Linda Williams. A Berkeley professor. I learned that porn isn't just porn. Porn is actually a discourse about sexuality, about masculinity, about femininity. And the roles we play.
Elle bosse avec des équipes de femmes, globalement. Elle a filmé des choses assez intéressantes, par exemple le sexe pendant les règles. Elle a fait des courts-métrages très female gaze qui érotisent le corps des hommes également, dont on voit vraiment les visages, par exemple, et pas que les bites. Par exemple, à l'époque, moi, j'avais vu un court-métrage sur un homme qui montait des meubles Ikea torse nu chez une femme qui était l'objet de son désir. Drôle. Donc, ce sont parfois des films aussi assez longs, pas forcément du jerk-off content. Voilà.
Oui, donc il y a d'autres réalisatrices qu'on peut citer puisqu'elles sont aussi engagées sur ce créneau-là. En France, on en a déjà parlé, on a Ovidie qui est plutôt passée du côté du documentaire malgré son expérience dans ce domaine-là. Mais dans la production porno, on peut surtout citer Anouchka qui a aussi voulu mettre le plaisir féminin au centre de ses films, contrairement au porno mainstream qui est surtout centré sur l'éjaculation masculine.
Moi, j'ai souvent commencé par des punis et je vais vraiment filmer le visage. Pour moi, c'est là où passe l'émotion. Donc, ça va pas être des plans génitaux, ça va être vraiment des plans du visage. Moi, dans ce que je fais, c'est on discute en amont de la scène, de comment je la vois, de comment les personnes qui vont travailler pour moi la voient aussi, c'est très important. Et ensuite, bon, bah, je dis action. Et puis voilà, je sais que ça va durer en moyenne 30 minutes, 45 minutes. Et mon cadreur et moi allons chercher les plans qui nous intéressent. On va s'attacher à avoir un cadrage qui va pas être phallocentré ou qui va pas être sur des plans exclusivement génitaux ou majoritairement génitaux comme ça peut se faire ailleurs. On va être sur quelque chose qui va être beaucoup plus poétique, j'ai envie de dire.
On peut aussi citer la réalisatrice et actrice Lucy Blush qui a déjà tourné dans un film d'Ovidie et qui possède également une plateforme indépendante payante avec ses productions qui s'appelle Common Sensual.
Oui, et dans l'univers du porno indépendant, voire expérimental ou alternatif, si on peut dire, moi j'aime bien le travail d'Émilie Jouvet, qui a notamment réalisé My Body, My Rules. Donc c'est plus un film post-porn expérimental que pornographique, mais ça y fait référence. Et donc il y a des performeuses comme Romy Alizé, qui est aussi une figure du porn indé chez nous, et qui a tourné avec Anouchka, Erika Lust, Poppy Sanchez. Et d'ailleurs, elle a tourné aux côtés de la performeuse Bertoul Borebec, la performeuse afro-féministe qui a écrit le livre « Balance ton corps ». Et Romy Alizé qui a fait la photo de la couverture de mon livre sur les travailleuses du sexe « Vilaine fille ».
Ah, tu fais bien de le préciser. Il y a aussi une réalisatrice française qu'on aime bien dans cette émission, c'est Olympe de G, qui est à la fois réalisatrice, actrice et créatrice de la boîte d'audio-porn Vox pour clitoris audiophile. Donc c'est du porno audio avec des histoires de sexe sonores pour guider la masturbation. Elle a réalisé un certain nombre de courts-métrages qui ont été produits par Erika Lust, comme The Beach Hiker, où elle joue une meuf à moto qui prend un mec en stop.
J'adore.
Son dernier film qui a été diffusé par Canal+, s'appelle Une dernière fois, avec Brigitte Lahaie, qui joue Salomé, une femme qui a décidé de programmer le jour de sa mort et qui fait passer un casting à des gens pour faire l'amour une dernière fois. C'est très beau, ça s'éloigne un peu de la pornographie traditionnelle, puisque le porno devient en fait un prétexte pour montrer des corps s'épanouir devant la caméra. Donc on voit des corps et des identités sexuelles très variées qui défilent dans cet appartement. Et évidemment, ça pose donc la question de savoir quels corps sont légitimes à être représentés dans le porno. Et Olympe de Gé s'efforce de montrer des corps queer, handy, racisés, gros, etc. Ça pose aussi la question de la fonction de ces films, je pense. Servent-ils uniquement à se branler ou à autre chose? Voilà, la question est posée.
Alors j'ai fait un truc que j'aurais jamais fait avant. J'ai passé une annonce.
Tu as passé une annonce?
Pour rencontrer une personne qui ne fasse pas partie de mon entourage.
Et alors elle disait quoi ton annonce?
Un jour, ce sera la dernière fois que je ferai l'amour. J'aimerais le savoir, j'aimerais m'y préparer, la préparer, avec celui qui sera ma dernière rencontre.
Ouais, bah en tout cas, dans Une dernière fois, il y a un vrai aspect cinématographique qui est intéressant à regarder. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de se masturber devant. Après, peut-être.
Ouais.
Écrivez-nous si c'est le cas. Aux États-Unis, dans le porno indépendant alternatif ou alt-porn, moi, j'aime bien Maria Betty. C'est la papesse du porno SM et fétichiste lesbien. Donc, c'est très, très beau. Bon, c'est assez pointu. C'est vraiment du porno art et essai, mais quand même bien explicite, je précise. Et elle a notamment réalisé des films qui ont fait sa renommée en noir et blanc comme The Elegant Spanking ou The Black Glove qui sont vraiment du genre film noir version porno lesbien, enfin, c'est assez intéressant.
Il y a une actrice afro-américaine qu'on peut citer aussi qui s'appelle Cinnamon Love qui a participé à un ouvrage collectif qui s'appelle The Feminist Porn Book dans lequel elle raconte à la fois son parcours puisqu'elle a débuté à 19 ans pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Et elle explique aussi qu'en divorçant de son conjoint, on a utilisé son activité de performeuse X contre elle. Elle dit qu'elle a aussi observé que sur les tournages, les corps noirs étaient classés dans deux catégories, soit presque blancs comme nous, donc comme le public supposé, soit ghettoisés par des réalisateurs blancs. Et donc, elle écrit qu'en tant que performeuse et que réalisatrice, elle aimerait montrer des dynamiques qui soient plus variées entre des couples afro-américains et en particulier qu'elle aimerait montrer du BDSM entre des hommes noirs et des femmes noires parce qu'elle explique qu'on voit rarement des pratiques hardcore dans des couples noirs et que souvent ces scènes sont cantonnées au tag dont tu parlais avant qui est interracial qui montre une femme blanche soumise avec un homme noir forcément dominateur ou agressif. Ou bien une performeuse noire qui serait hypersexualisée et donc qui serait mise en couple à l'écran avec un performeur blanc. Voilà, donc je trouve que c'est intéressant comme apport.
C'est clair, les schémas classiques sont tellement binaires et problématiques.
Et il y a une autre personne emblématique qu'on peut citer dans ce mouvement aux États-Unis, c'est Tristan Taormino, qui est réalisatrice porno féministe, éducatrice sexuelle et activiste, et qui explique que dans ses films, les acteurs et les actrices n'ont pas de scénario imposé, ce qui est quand même assez rare, et qu'il et elle choisissent leurs partenaires et les pratiques qu'il et elle ont envie de faire, ce qui est plutôt cool.
Ouais. Donc, autre femme du milieu, il y a aussi la réalisatrice Holly Randall, qui apparaît justement dans la série documentaire Hot Girls Wanted sur Netflix, et qui, elle, fait pas tellement de l'alt-porn, mais du porn glamour et haut de gamme, selon ses mots. Alors, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas, elle est la fille de Suze Randall, qui a été la première femme photographe pour Playboy et productrice de films. Donc je trouvais ça intéressant de la citer.
Magnifique généalogie.
Voilà.
Alors on a vu aussi des plateformes de stream qui se sont spécialisées pour se distinguer de l'industrie mainstream. C'est le cas par exemple de Pink Label TV, la société de production créée par la productrice Shine Louise Houston, qui est une figure du porno alternatif et queer. Et cette plateforme héberge notamment des films X indé queer comme ceux de Maria Beatty, si ça vous intéresse.
Encore une autre figure que l'on peut citer, il y en a énormément en fait, on ne peut pas être exhaustive malheureusement. Il y a Nina Hartley qui a publié en 1992 l'article « Reflections of a Feminist Porn Star ». Elle est depuis devenue coach et sexologue. Elle a un site en fait de pédagogie sexuelle et elle donne des leçons. Mais
ouais.
Des leçons de sexe, c'est ça ?
Ouais, c'est assez marrant.
Okay.
Je vous invite à aller regarder. Alors évidemment, petit hic, puisque avoir des femmes ou des personnes non-binaires productrices ou producteurs, ça ne veut pas forcément dire que la violence ne peut pas se produire sur un tournage ou que des questions de consentement ne vont pas se poser. Déjà parce que la logique de rentabilité et l'appareil de production rend les choses complexes. Par exemple, ce n'est pas forcément évident de planter un tournage. Il y a d'ailleurs peu d'images où on voit vraiment ce qui se passe derrière la caméra. Dans une scène de la série du documentaire dont tu parlais sur Netflix, Hot Girls Wanted Turned On, qui suit Erika Lust sur un tournage, on voit une amateur qui fait sa première scène de X, et là c'est un peu le malaise, puisque l'actrice dit qu'elle a mal, et à ce moment-là il y a un temps de flottement. Finalement, tout s'arrête et on lui demande comment ça va, mais on sent également que le temps est compté et qu'il faut rapidement tourner la scène de faux orgasme. Dans un autre épisode, c'est une recruteuse qui dit aux actrices qu'elles ne feront que ce qu'elles veulent et qui se retrouve finalement face à une actrice qui a des problèmes d'addiction et qui est totalement laissée à l'abandon. Voilà, c'est assez violent.
Ouais, je trouve que la scène avec Erika Lust, c'est assez, ça montre des choses intéressantes parce qu'à la fois, la personne est respectée dans le sens où on va lui demander, enfin, on arrête la scène, etc. Mais où il y a vraiment les logiques de marché qu'on sent en fait derrière le tournage et des logiques de temps. Et donc, c'est là-dedans qu'on s'interroge en fait sur l'appareil tout simplement de production. Donc pareil, la chercheuse américaine Rebecca Westnant, donc elle est clairement anti-porno. Elle a apporté un regard critique sur les liens entre discours féministe et culture porn. Et elle parle notamment du travail de Tristan Taormino. Donc elle parle justement de ce problème des exigences de rentabilité dans le domaine qui peut potentiellement conduire à des dérives. Et elle dit « Il est impossible de participer à la production d'un film porno commercialement viable en oubliant tout ce que vous savez sur le porno. » Et elle dit aussi que finalement les scripts sexuels montrés ne sont pas si différents du porno mainstream et que finalement le discours autour d'un set féministe fun et safe rend plus difficile l'éventuelle dénonciation de problèmes de violence.
Oui, donc c'est pas mal d'apporter un peu de nuance et de réserve à tout ça dans le débat, puisqu'aujourd'hui le porno cristallise encore pas mal de conflits au sein des mouvements féministes. D'ailleurs, on se demande à juste titre si ce discours est un simple positionnement marketing dans certains cas ou s'il s'agit d'une réelle exploration pour de meilleures pratiques. Le site américain Healthline a d'ailleurs souligné à raison que les termes éthique et féministe étaient devenus des buzzwords, donc des mots-clés qui sont utilisés dans l'industrie du film X comme outil marketing, sachant que le contenu n'est pas forcément raccord avec cette promotion.
Oui, même de grosses boîtes comme Dorcel font du féminisme washing. D'ailleurs, c'est un thème sur lequel on reviendra dans un prochain épisode, en affichant des préoccupations autour d'un porno plus éthique et en proposant un porno dit féminin en accès gratuit pour sa com. Mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire encore une fois qu'un porno féminin ? Est-ce que ça veut dire qu'il est plus vanille ? C'est-à-dire pas BDSM par exemple ? Donc bon, après, ils ont aussi lancé une initiative intéressante de création d'une charte déontologique pilotée par une femme, la réalisatrice et ancienne actrice Lisa Del Sierra, avec un sociologue et un avocat. Mais pareil, est-ce de la poudre aux yeux ou un vrai engagement ? On peut se poser la question.
Franchement, il faudra vraiment suivre de près cette initiative.
C'est clair.
Parce que, bon, personnellement,
c'est,
je ne suis
pas
très optimiste.
C'est un effet d'annonce.
Ouais. C'est ça. On va voir si c'est réellement appliqué, surtout. Il y a aussi des personnes anti-porno qui considèrent que c'est une forme d'hypocrisie pour cautionner des pratiques qui sont foncièrement violentes. En France, c'est le cas des abolitionnistes du CAPP, le collectif anti-porno-prostitution. D'autres personnes concernées, à l'inverse, répondent que l'hypocrisie vient plutôt des anti-porno. Donc chacun se renvoie la balle. Il et elle défendent le travail pornographique lorsqu'il est exercé dans de bonnes conditions, il faut quand même le préciser, comme un potentiel espace de création où on peut performer les codes de genre, comme un jeu de rôle dans un cadre consenti, et où on peut aussi remettre en question les imaginaires sexuels hétéronormés dans certaines productions alternatives. Donc pour elles et eux, la priorité, ce ne serait pas d'interdire, mais de protéger et de défendre les droits des personnes dans ce secteur. C'est notamment la position du STRAS, donc le syndicat du travail sexuel. Et c'est vrai que ces débats sont positionnés pour certains et certaines sur le public et pour les autres plutôt sur les conditions de production et les personnes concernées. Donc souvent, c'est un dialogue de sourds parce qu'on ne parle pas de la même chose en fait.
Ouais. Il y a la théorie et la pratique. D'ailleurs, des performeuses disent que la distinction en fait, entre porno mainstream et porno indé féministe n'est pas forcément pertinente puisque certaines grosses productions, notamment, proposent de bonnes conditions de tournage. Je pense notamment aux États-Unis. Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais je sais qu'il y a eu des productions avec des stars du X qui étaient quand même mieux payées qu'en France, par exemple. Et il y a d'autres prods qui se revendiquent plus éthiques et qui ont des pratiques qui vont à l'encontre de leur image. Donc c'est difficile en fait de mettre un tampon féministe et par ailleurs, est-ce que certaines pratiques sexuelles sont foncièrement pas féministes? Bon, pour les féministes critiques de la pornographie, oui, mais pour les sex-positives, non. D'autres se fixent des limites, par exemple, c'est assez parlant. Dans Hot Girls Wanted, il y a la réalisatrice Holly Randall qui dit qu'elle ne filmera jamais de swirlies. Donc ça, c'est une pratique où en fait, on met la tête d'une actrice dans les toilettes. Bon, voilà, je pense qu'on peut comprendre ce choix.
Oui, chacun et chacune ses limites. Et alors, par ailleurs, la pornographie fait partie maintenant des études universitaires, puisque les porn studies sont nées à l'université de Berkeley, en Californie, dans les années 80, et donc sont devenues un sujet d'études universitaires légitimes, qui sort aussi du champ de la psychologie auquel il a été longtemps cantonné, pour entrer dans le domaine de la culture visuelle et pour remplacer, je cite, l'opposition entre bonne et mauvaise image de la sexualité des femmes. Et donc dans ce domaine, on retrouve des auteurs et des autrices comme Sam Bourcier, Marianne Pavot, Raquel Eborghi et bien d'autres.
Oui, moi j'aime bien aussi le discours du chercheur Florian Voros qui vient de sortir le livre « Désiré comme un homme » chez La Découverte, qui dit qu'en fait le porno est un objet d'étude à part entière en ce qu'il reflète le patriarcat qui lui préexiste. Et il dit que c'est une forme de mépris de classe que de ne pas vouloir l'étudier ou d'en faire le seul responsable de la culture du viol, alors que les productions cinématographiques hollywoodiennes par exemple ne sont pas en reste à ce niveau.
Une explication de cet attachement à la virilité à la domination masculine, c'est que c'est confortable pour les hommes. Les hommes hétérosexuels blancs, ils vivent dans un monde érotique qui a été pensé largement paré pour eux, dans lequel ils sentent souvent assez confortables, assez à l'aise. Mais il y a aussi souvent des moments de malaise où ils se questionnent, où ils se disent « mais en fait, est-ce que je fantasme pas sur des choses violentes? Est-ce que c'est pas un peu bizarre? Est-ce que je suis en train de faire ?» Et souvent, plutôt que d'interroger la masculinité, ils vont en fait accuser la pornographie, c'est tout le discours par exemple de l'addiction à la pornographie, ou alors ils vont accuser le féminisme d'avoir déstabilisé l'ordre naturel des sexes, d'avoir foutu le bazar dans une situation qui jusqu'ici était très harmonieuse.
Et dans son livre, il montre que l'imaginaire sexuel des hommes cis qu'il interviewe est façonné par les normes patriarcales qui sont partout et pas que dans le porno. Et il dit qu'aussi, en fait, ça donne des productions aussi qui répondent à cela et ça se mord la queue et c'est souvent bourrin et pas très varié. Mais en tout cas, le porno est comme un miroir tendu aux normes sexuelles. Et voilà. Et je pense que finalement, dans ce débat, il y a surtout en fait un intérêt à parler en termes de regard et de représentation.
Il y a aussi une citation de la chercheuse Elsa Dorlin qu'on peut mentionner ici. C'est dans le livre « Sexe, genre et sexualité ». Ouvrez les guillemets, la pornographie de masse est violente. Toutefois, l'enjeu n'est pas tant la condamnation de la pornographie comme étant par essence violente, mais plutôt la critique du régime de véridiction qu'elle institue en matière de sexualité. Une pornographie non sexiste, non lesbophobe ou non raciste n'est possible qu'à la condition de déplacer les codes et les techniques de la pornographie de masse, de marginaliser cette vérité du sexe en donnant à voir d'autres vérités sur l'orgasme féminin, le rapport au corps propre comme au corps autre. Loin d'une esthétisation de la domination, une telle pornographie est l'une des rares politiques d'éducation sexuelle alternative, à charge pour ses détracteurs d'en initier d'autres.
Je trouve que c'est intéressant.
Ah bah oui, surtout avec les chiffres qu'on a donnés au début de cet épisode sur l'éducation sexuelle et le rôle de la pornographie.
C'est ça.
Voilà.
Faut la changer de l'intérieur, en fait. Florian Voros et Mathieu Trachman l'écrivent d'ailleurs dans l'Encyclopédie du genre. En fait, l'un n'empêche pas l'autre. Le refus de constituer la pornographie en symbole de l'oppression des femmes ne conduit pas à abandonner le projet d'une analyse féministe de la pornographie, écrivent-ils. Bon, après, ce sont deux chercheurs hommes qui disent ça.
Tu fais bien de me rappeler. Et il y a aussi par ailleurs ce qu'on appelle dans les milieux universitaires le post-porn, c'est-à-dire une pornographie qui est aussi réflexive de ses propres pratiques. Donc là, ça devient très très intello. Mais surtout, une production qui est surtout politique et pas simplement commerciale. Le chercheur Sam Boursier écrit à ce sujet « L'émergence d'un mouvement et d'une esthétique post-pornographique à la fin du XXe siècle constitue une critique de la raison pornographique occidentale. Elle peut être analysée comme un discours en retour, pour reprendre les termes de Foucault, venu des marges et des minoritaires de la pornographie dominante, donc les travailleurs et travailleuses du sexe, les individus qui se prostituent, les gays, les lesbiennes, le BDSM, donc bondage, discipline et sadomasochisme, les queers, les trans et les déviants du général assumés comme tels. Le déclic post-porn relève également d'une déconstruction et d'une dénaturalisation de la pornographie moderne comme technologie de production de la vérité du sexe, des corps et des genres, donc masculinité, féminité, qui n'aurait pas été possible sans l'apport des théories féministes, post-féministes, pro-sexe et queer.
C'est un peu ce que dit Elsa Dorlin en un peu plus long.
Ouais, effectivement.
Donc, on peut conclure en parlant en fait des propositions qui sont apportées par des personnes du milieu elles-mêmes. Donc, par exemple, responsabiliser les consommateurs et les consommatrices en prônant par exemple une consommation éthique, donc payer pour le porno, vérifier l'âge des actrices et acteurs en cherchant des infos sur elles et eux, voir si ce sont des pros ou pas, car si c'est amateur, ça peut être cool. Disons si ce sont des couples ou des amants, des amantes qui s'amusent et qui se filment. Mais parfois, derrière le style amateur, comme on l'a dit, il y a toute une prod qui, elle, ne travaille pas forcément de façon éthique. Mais en tout cas, ça demande aux consommateurs et à la consommatrice d'être plus actifs et actives, un peu comme au supermarché quand on vérifie les ingrédients d'un produit avec Yuka. En tout cas, ce n'est pas un réflexe aujourd'hui quand on consomme de la culture ou du divertissement, mais ça devrait l'être, en fait.
Oui, c'est clair, mais c'est pas du tout naturel. Enfin, c'est comme d'aller dans un multiplex et ensuite de changer et de décider délibérément d'aller dans un cinéma d'art et d'essai. En fait, voilà, c'est une démarche active qui va pas forcément de soi quand on l'associe à la pornographie. Et par ailleurs, il y a également une question financière qui se pose, puisqu'il y a le problème de faire du porno féministe qui soit aussi rentable, précisément pour que les personnes soient correctement rémunérées. D'ailleurs, à ce sujet, on vous renvoie à l'émission de Splash chez Nouvelles Écoutes qui a été présentée par Léa Lejeune sur le sujet et qui explique que le serpent se mord la queue, sans mauvais jeu de mots, car les trucs vraiment indés ont souvent peu de moyens. C'est ça le paradoxe.
Ouais.
Des marques classées parmi les plus connues des Français, toutes catégories confondues. Elles reposent sur des modèles un peu différents des tubes, car elles réalisent beaucoup de productions en interne. Elles misent donc pas mal sur un modèle payant via la vidéo à la demande sur leur site ou les objets dérivés, par exemple. Mais en quantité, cela ne représente qu'une petite partie du porno regardé. La majorité du porno aujourd'hui est composée de courtes scénettes.
On va vous proposer d'écouter à présent une petite interview avec Lula Bye Bye et Robin Chien, qui ont lancé la boîte de prod Puppy Please. On leur a demandé quelles revendications elles portaient en tant que concernées par le sujet. On les écoute.
Puppy Please, c'est une société de production indépendante de films pour adultes. Donc moi, c'est Robin Chien, je suis artiste et responsable de la coordination chez Puppy Please.
Et moi, c'est Lula Bye Bye, je suis actrice X et responsable du pôle communication chez Puppy Please. On est donc trois, on est deux femmes et un homme trans. Donc d'emblée, les gens vont penser qu'on va faire du porno féministe, queer, éthique. Et en fin de compte, ça devient par moments comme une injonction. Et nous, ce qu'on revendique sur ce plan-là, c'est de jouir en fait de la même liberté de création que les hommes cisgenres en situation d'hétérosexualité.
Et voilà, et du coup, ce qu'on voulait pointer par rapport à cette question, c'est que finalement, la fenêtre de tir des pornographes femmes est très réduite parce que en même temps, y a toujours cette idée que c'est pas bien de faire du porno, sauf si c'est féministe. Donc, il y a vraiment un passage très étroit pour ces personnes-là.
Et du coup, ça se ressent aussi, enfin, en tant que pornographe, mais aussi en tant que actrice X, où finalement, on va nous dire, ah oui, toi, t'es à poil sur Internet, mais c'est pas grave, toi, c'est pas pareil, parce que t'es féministe et tout. Enfin, il y a un moment où ça va, enfin, ouais, laissez-nous. Robin, en tant que caméra woman, comment tu questionnes ton regard ? Est-ce qu'il y a des manières de filmer ou des cadrages, plans, etc., qui soient plus female gaze ?
Alors, d'abord, je pense que quand je filme, je ne suis pas du tout en train de déconstruire ou de questionner mon regard. Quand je filme, je filme. Et forcément, mon imaginaire, il est construit de plein de représentations, de plein de films porno que j'ai vus ou pas que porno. Et après, ça produit des images. Et alors, si elles sont female gaze ou male gaze, je sais pas trop, c'est un mélange de tout ça. Mais en tout cas, ce que j'essaye de faire, je crois, c'est d'avoir une dynamique de réappropriation du male gaze. J'essaye de vraiment regarder mes acteurs, actrices avec une dynamique de désir. Et donc ça, peut-être que ça en fait presque du male gaze, mais comme je suis une femme cis, est-ce que du coup, ça... En fait, j'ai l'impression que tout ça, ça déconstruit ces choses-là. Et je pense que c'est hyper important parce qu'il faut pas arriver à une forme d'essentialisation du female gaze où ce female gaze, ce serait ça et pas autre chose. En fait, ça peut être plein de choses. Avez-vous des expériences de tournage de bonnes ou mauvaises pratiques, Lula Bye Bye?
Mais les deux, ma chère Robin Chien. Oui, j'ai des expériences de mauvaises pratiques de tournage dans le cadre de tournage de porno mainstream, où en fait il y avait un rapport de force qui était complètement déséquilibré entre l'employeur et moi, si bien que je n'étais pas en possibilité de refuser des conditions en fait que je n'aurais pas acceptées si le rapport de force n'avait pas été tourné à mon désavantage. Et par contre, je trouve qu'il y a des bonnes pratiques chez Puppy Please parce que tout repose sur de la co-réalisation et de la co-scénarisation.
Oui, et je pense que ce côté de co-réalisation, ça évite qu'il y ait un sentiment de dépossession de ce qui se passe finalement en co-construit tout, donc il n'y a pas cet effet de j'arrive sur le tournage, c'est comme ça, et t'as pas ton mot à dire, en fait, tout est... Enfin, on a conscience de tout le processus de fabrication, de l'écriture jusqu'à la diffusion.
Oui, ou sur la diffusion, si jamais sur telle image, je trouve que je suis pas jolie ou pas au mieux et tout, pareil, j'ai le contrôle sur ce point-là aussi, c'est quelque chose qui est très, très important, en fait.
Merci à elles pour leur témoignage. Alors maintenant, si on veut parler de notre expérience personnelle, Clémentine commence à rigoler. Toi, Clémentine, quel rapport tu as ou as eu avec le porno ?
Alors, n'étant pas un homme cis, je n'ai pas vécu ces longues soirées de branlette en groupe qui semblent être vraiment un moment clé de la vie des
un
jeunes.
Un rite de passage.
C'est ça, des jeunes adolescents. Voilà, malheureusement, je devais être en train de lire ou de jouer à la Game Boy. Mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, le porno, je trouve qu'en plus d'être un des domaines où on s'étripe le plus entre féministes, c'est aussi, je trouve, une manière de se valoriser et de se donner un peu l'air cool quand on est pro-porn. Mais après, à titre personnel, je trouve que c'est quand même le domaine des contradictions par excellence. Par exemple, comme être anticapitaliste et avoir un smartphone, je pense que c'est assez fréquent, malheureusement, puisque presque tout le monde en consomme et qu'on sait très bien, au fond, que ce n'est pas bien. Ça n'a rien à voir avec la morale, mais que simplement, parfois, c'est de la traite d'êtres humains. Ça n'empêche pas les gens de continuer. Et donc, il y a une sorte de dissonance cognitive qui est très forte, comme quand on mange de la viande ou quand on consomme de la fast fashion, voilà, et que nos pratiques en fait contredisent très vite nos principes. Par ailleurs, moi, sur le fond, je suis toujours un peu gênée aux entournures, comme pour la question du travail sexuel, de voir que les contenus majoritaires et les pratiques majoritaires n'ont l'air de s'adresser qu'aux hommes hétéros cis, comme si c'était les seuls à avoir une sexualité ou du désir. Donc c'est un peu relou pour les autres personnes. En tout cas, moi, j'ai découvert pas mal de trucs cette semaine, notamment en payant, ce qui était une première. Et franchement, je pense qu'il était temps. Par ailleurs, moi, j'aime bien l'audio. On en a déjà parlé, je pense, ici avec toi, comme Vox, Le Son du Désir. Il y a aussi une application qui s'appelle Deepsea. Et donc, pour la préparation de cet épisode, je me suis renseignée et j'ai regardé quelques contenus sur le site de Erika Lust. Et suspense, c'est excitant, parce que c'est quand même la question qu'on se pose le plus souvent. Est-ce que le porno féministe, ça va être chiant? Voilà, ou forcément vanille? Non, pas forcément. Et donc, voilà, je peux confirmer que ce sont des corps qui ont l'air d'être normaux, des scripts sexuels qui sont plus variés, mais qui sont pas forcément moins trash ou plus soft. Qu'il y a une histoire, donc c'est-à-dire qu'on comprend comment ces personnages se retrouvent cul par-dessus tête. Ça n'arrive pas juste comme ça, comme par magie. Voilà, donc en tout cas, ça fait évoluer l'idée que le sexe serait quelque chose que les hommes feraient aux femmes. Et par ailleurs, petite note de bas de page, j'aime bien un dessin qui a pas mal tourné sur Instagram de la dessinatrice Hazel Med, qui montre tout ce qu'on ne voit pas dans le porno mainstream. C'est assez drôle, donc il y a à la fois le sang des règles, l'épée de fouf, l'acné des fesses, les discussions sur le consentement, des gens qui partent des chaussettes, des gens qui vont chercher du PQ, des animaux de compagnie qui regardent d'autres gens baiser, et évidemment des choses moins drôles comme le vaginisme ou voilà, d'autres problèmes de santé qu'on peut avoir. Et toi, Pauline, tu veux nous partager ton tag préféré?
Alors non. Mais après, moi je trouve que, enfin évidemment, il y a des mauvaises pratiques qu'on a largement évoquées ici, mais après, c'est, pour moi, c'est pas l'objet pornographique en lui-même qui est problématique, puisque, encore une fois, il peut être le support de choses bien différentes de ce à quoi on est habitué. Bon, c'est très tabou de dire quel porn on regarde. Moi, en tout cas, j'ai découvert le porno très tardivement dans une sorte d'euphorie, en me demandant pourquoi on m'avait privé de ça. J'ai regardé du porn mainstream gratuit sur YouPorn, j'avoue, de l'hétéro-basique qui tâche, mais jamais de fantasmes de viol ou de violence, enfin de trucs violents. Plutôt des productions très léchées, bien tournées, avec des efforts d'image, etc. Donc j'imagine des productions qui ont plutôt des moyens. Mais après, j'ai arrêté, parce que j'ai bien pris conscience du côté aléatoire des conditions de production, un peu comme quand on réalise qu'on achète de la mauvaise nourriture. J'ai vu des documentaires où j'ai compris que les actrices étaient quand même globalement très mal payées, flouées, parfois violentées. Par contre, comme toi, j'ai regardé X Confession qui visiblement quand même se passe dans des conditions meilleures, que j'ai vraiment trouvé cool à l'époque, et depuis je me suis plutôt tournée vers l'audioporn également, surtout avec Vox d'Olympe de G, que je trouve en fait plus safe globalement et qui permet de nourrir mon imaginaire fantasmatique avec des images que je construis moi-même dans mon esprit. Ça, c'est une réappropriation qui est importante pour moi. J'ai aussi regardé des films très expérimentaux comme je l'ai dit, mais c'était pas vraiment pour des visées masturbatoires. Et sinon, une anecdote, j'ai dévoré à l'époque la télé-réalité américaine, sorte de Starac de la future star du cul.
Je suis étonnée que ça n'existe pas en France.
C'est ça, c'est sur Internet, hein, c'était pas sur une chaîne. Et en fait, c'est la Starac du porno où il y a des épreuves d'élimination en mode explicite, où on voit les futurs acteurs et actrices tourner des scènes. Donc attention, c'est totalement not safe for work. Et c'est assez vertigineux et dérangeant, mais ce qui m'avait frappé, c'est que beaucoup de mecs en fait n'arrivaient pas à bander et pleuraient en interview, alors que les meufs se moquaient d'eux et se comportaient vraiment comme si elles se sentaient supérieures aux hommes. Donc c'était assez fascinant à regarder, quoi.
At the 2014 AVN Awards show in Las Vegas, some of porn's biggest stars came together to create a reality competition called The Sex Factor. 8 guys and 8 girls will compete for porn stardom and a $1 million prize.
Mais en tout cas, je pense que ce qu'on peut ajouter aussi, c'est qu'il y a quelques temps, il y a eu toute une tendance sur Internet de journalistes ou de personnes qui postaient des articles à la première personne, comme des déclarations d'intention en disant « j'ai arrêté de regarder du porno mainstream, maintenant je ne regarde plus que du porno féministe, etc. » Donc ce serait intéressant de voir si à la longue, les gens ont réussi à s'y tenir et si ce mouvement-là va devenir plus mainstream et sortir un peu de la niche auquel il est pour l'instant cantonné.
Le moment
pop
culture.
Pop culture.
parler un peu de la pop culture, on l'a dit précédemment, il peut y avoir une forme de continuité entre l'industrie pornographique et l'industrie hollywoodienne. De quelle manière ?
Oui, d'ailleurs, l'industrie du porno a inspiré le cinéma hollywoodien directement, de manière, je pense, assez opportuniste. Par exemple, le film The Nice Guys de Shane Blake avec Ryan Gosling et Russell Crowe. C'est une enquête barrée qui se passe sur fond d'intrigues liées au monde du porno, qui a toujours fasciné et qui commence par la découverte d'une actrice X tuée. Bon, c'est jamais très féministe dans ce domaine.
Quand tu verras le docteur,
non !
Dis-lui que t'as une fracture spiroïde du radius.
Non !
Inspire.
Non !
Je travaille pour le ministère de la Justice. Ma fille Amelia est en danger. Retrouvez-la et protégez-la.
Sinon,
évidemment, elle est punie par la fiction.
Exactement.
C'est une très mauvaise femme.
Et il y a aussi The Girl Next Door, un lycéen timide et loser qui tombe amoureux de sa voisine, qui s'avère être une star du porno. Alors là, vieux fantasme hétéro-beauf éculé.
Oui, il faut savoir qu'il y a aussi des actrices et des acteurs de porno qui ont pu tourner dans le cinéma plus grand public. C'est le cas, par exemple, de Sacha Grey, que l'on a vu notamment chez Steven Soderbergh. Et c'est une transition qui n'est pas simple à faire dans ce métier. Je pense aussi que la question de l'âge, de l'âgisme et du vieillissement dans l'industrie du porno est extrêmement compliquée à négocier, encore plus que pour les acteurs et les actrices traditionnels. Et on se souvient aussi de Catherine Ringer qui avait été insultée par Serge Gainsbourg parce qu'elle avait eu l'outrecuidance de faire du porno amateur. Donc voilà, il l'avait shamée.
Ouais, j'ai jamais fait d'ailleurs du soft, j'ai toujours refusé. J'ai toujours refusé de poser dans lui, dans Playboy, je trouve ça minable.
Par contre, ça
le hardcore,
quoi, alors
je faisais que du hardcore. On vous dit, tenez-vous, alors voilà le plan, la fille est en levrette, le mec est comme ci, et vous faites tant de...
Vous êtes une pute.
Oui, bah, oui, ça a à voir avec ça.
Vous êtes une pute.
Non, parce que c'est pas la même chose.
Putain.
C'est pas le même métier.
Oh, écoutez, vous êtes fait
c'est
baiser.
C'est pas le même métier.
Baiser par la caméra.
Mais non, parce que c'est pas des clients que j'avais, moi. C'était des...
Mais non, vous êtes dégueulasse.
Alors que ce soit dégueulasse, c'est possible.
C'est dégueulasse.
Ah oui, c'est dégueulasse.
Il y a un autre film dont on peut parler, c'est une comédie de Kevin Smith, qui est passée un peu inaperçue, qui s'appelle « Zach et Mary font un porno », avec Seth Rogen et Elizabeth Banks, qui suit deux amis qui sont obligés de tourner un film X parce qu'ils sont à sec financièrement.
Que faire quand on a de gros problèmes d'argent ?
Si on n'arrive pas à payer le prochain loyer, ils vont nous expulser de l'appart.
Il va falloir que tu vendes ton cul.
On va faire du porno.
Et un bon porno, c'est surtout un titre poétique.
Laurence Darabit.
L'invasion des profanateurs de cul.
J'ai trouvé !
Stardust.
Le film est assez drôle parce qu'il montre pas mal les dysfonctionnements de l'industrie, le slut-shaming et aussi ce qu'on appelle le hotness gap, donc la différence de beauté entre l'homme et la femme, puisque là, Seth Rogen, il n'est pas très beau, mais on trouve absolument normal qu'il soit couplé à l'écran avec une femme beaucoup plus belle que lui. Par contre, la limite du film, c'est quand même que le running gag, montré comme ridicule, c'est que l'homme et la femme sont à égalité dans ce porno et que voilà, c'est montré comme quelque chose de totalement débile alors que ça devrait juste être normal en fait.
Il y a aussi le cinéma indépendant qui s'est emparé parfois du sujet, par exemple dans Le Pornographe de Bertrand Bonello avec Jean-Pierre Léaud.
Oui, et il faut rappeler qu'avant les déclarations et les accusations portées par la comédienne Adèle Haenel, il y avait l'actrice Noémie Cochet qui avait porté plainte contre le cinéaste Jean-Claude Brissot, qui est aujourd'hui décédé, parce que celui-ci faisait souvent passer des essais, je cite, « érotiques » à ses actrices pour des films qu'ils n'étaient pas forcément. Voilà.
Oui, donc on voit que les dérives, c'est aussi dans le cinéma traditionnel et on le sait
ouais.
Depuis MeToo, ça c'est sûr.
Donc effectivement, le fait de fustiger l'industrie pornographique ne doit pas occulter les problèmes qui existent dans d'autres pans de l'industrie.
Absolument. Moi, j'avais aussi envie de citer Un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez. C'était un thriller loufoque qui était passé à Cannes avec Vanessa Paradis, qui joue une productrice lesbienne de porno gay qui vient de se faire larguer par sa meuf et qui se retrouve confrontée à une enquête sur la mort d'un de ses acteurs. Alors, c'est complètement barré, mais c'est très intéressant, ça vaut le détour.
C'est un de ses amis qui a découvert le corps.
Car elle venait de tourner dans un de mes films.
Quel genre de film exactement ?
Oh, arrêtez votre charme, faites pas le coup des types, ils sont pas renseignés.
Dans deux minutes, je veux tous à poil et regarde à vos plurettes que Giscard.
On peut aussi recommander la série The Deuce avec Maggie Gyllenhaal. On en a déjà parlé ici longuement. Elle raconte comment des femmes vont elles-mêmes créer leur production de porno dans le New York assez interlope des années 70. Et on cite souvent cette série comme étant un très bon exemple de female gaze naissant.
Something about community standards.
What about community standards?
Apparently New York has none.
Oui, et moi je citerai également le documentaire Mutante de 2009 de Virginie Despentes, avec des interviews d'actrices et de réalisatrices féministes comme Annie Sprinkle. C'est vraiment génial.
Précurseur. Il y a aussi le documentaire Rhabillage qui date de 2011, donc d'Ovidie, sur l'après-porno pour les actrices de X, qui raconte comment elles se sont souvent faites traîner dans la boue. Il est aussi disponible sur YouTube.
Moi, je pensais que les actrices, les stars étaient hébergées dans des palaces.
Bah, nous aussi, au début, quand on a commencé. Puis, en fait, on s'est fait avoir.
Les gens dans le public savent que vous n'êtes plus actrice. Pour eux, vous restez toujours des stars du X présentes.
Je pense qu'on nous présente encore surtout en tant qu'actrice.
Et pour eux, on est tout le temps actrice.
C'est après que ça devient compliqué.
C'est après, ouais, parce que quand après, on a peut-être envie de passer à autre chose, de changer d'image. Et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, quand les gens nous connaissent, bah, c'est un peu... Bah oui, les donnes sont changées parce qu'ils ne nous voient pas en tant que filles de tous les jours, filles normales, avec une vie complètement normale, avec des problèmes, une fille qui pleure, une fille qui a des sentiments... qui pensent pas forcément qu'au sexe, une jeune fille normale, quoi.
En BD, on peut citer La fabrique pornographique de Lisa Mandel et du sociologue Mathieu Trachman de la collection Sociorama. Donc là, ça vulgarise, disons, la sociologie de la production pornographique en dessin. Donc c'est une bonne approche.
Qu'est-ce que tu kiffes ?
Qu'est-ce que t'écoutes ?
Les recommandations.
Qu'est-ce que t'as dans ta besace ?
Les recommandations
culturelles.
Qu'est-ce que tu lis ?
Les recommandations culturelles.
De quoi de meuf ?
Alors cette semaine, tu nous recommandes une BD.
Oui, c'est Corps public, le roman graphique de Mathilde Ramadier et de l'illustratrice Camille Ulrich aux éditions du Faubourg. C'est un livre sur la trajectoire d'une femme dont le corps est le siège des injonctions. C'est pas nouveau, mais c'est notamment autour de la maternité et du postpartum. Et c'est vraiment intéressant et c'est très très bien illustré. Et toi Clémentine ?
Oui, je l'ai lu, je confirme. Moi je recommande le livre Her Story de Marie Kirchen aux éditions La Ville Brûle, qui est dessiné par Anna Vanda Goguzé. C'est une sorte d'abécédaire de tous les concepts des féminismes, par exemple mansplaining, misogynoir, transféminisme, mais aussi des sigles qui sont souvent utilisés comme MLF, des personnalités qu'on mentionne et qu'on ne connaît pas toujours, comme Monique Wittig ou les Riot Girls, mais aussi des expressions les plus usitées, donc not all men, menace violette. Voilà, et l'ensemble est assez utile, je pense, à la fois pour se lancer ou pour faire le point, hein, j'ai moi-même appris des choses. Comme quoi, et il y a aussi toute une recommandation de chansons féministes, de films à avoir vus, de livres à connaître. Voilà, donc beaucoup, beaucoup de références dans cet ouvrage.
Ouais, bravo Marie.
Allô,
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 allô, monsieur l'ordinateur.
Quoi de meuf vous écoute ?
Alors, la question de l'auditrice de cette semaine est la suivante. Donc, elle explique « Je suis en couple avec un homme et nous avons deux enfants. Je suis en temps partiel. J'ai évidemment une charge mentale et je souhaiterais faire appel à une aide pour l'entretien de notre maison. Mon compagnon et moi-même sommes dépassés et lui est souvent en déplacement, donc peu disponible. Étant moi-même racisée et féministe, je ne suis pas à l'aise de déléguer cette tâche à une autre femme. Pour mon compagnon, cela pose moins de problèmes car il a déjà eu des aides ménagères quand il vivait chez ses parents. Il est issu d'une famille plutôt aisée. Comment puis-je me positionner ? Merci pour ce que vous faites. Alors Clémentine ?
Oh là là ! Alors c'est la question qui tue, hein. C'est un peu comme le porno, c'est-à-dire c'est vraiment une pierre d'achoppement des mouvements féministes, la question de l'aide ménagère qui est en réalité la question de la femme de ménage, puisqu'elle mobilise bien souvent les notions de classe et ou de race. Tout le monde s'est posé cette question, Mona Chollet en a parlé dans Le Monde Diplomatique, Le Guardian a consacré un article à la question, et à chaque fois la réponse est un peu gênée aux entournures. Pour donner une réponse théorique et concise, la réponse est non, idéalement, il ne faut pas. Ensuite, on peut donner d'autres arguments pratiques qui sont développés dans ces divers articles et par contre qui demandent de faire des compromis sur ses convictions. Donc voilà, il faut le dire, puisque souvent avec la charge mentale, les hommes dans des couples hétéros ne font pas ce qu'il faut et donc les femmes se retrouvent à sous-traiter des tâches domestiques et donc à exploiter des femmes précaires et ou racisées pour sauver leur couple et leur santé mentale. Il faut rappeler que déjà avoir une aide ménagère, c'est un privilège, qu'il faut dans tous les cas que les personnes concernées soient rémunérées correctement et déclarées. Moi, je pense par ailleurs qu'il faudrait demander aux personnes qui exercent ces métiers ce qu'elles en pensent. Donc moi, je ne sais pas très bien quoi répondre à cette auditrice. Peut-être qu'il faudrait que son mari fasse son travail. En même temps, je me vois pas interdire à une autre femme, qui plus est racisée, d'essayer de sortir la tête de l'eau. Simplement, je suis très gênée que ce soit au détriment d'autres femmes. Mmh. Donc, pour le coup, voilà, je m'abstiendrai de donner mon avis, sachant que je ne suis pas non plus concernée, je n'ai pas d'aide ménagère. Voilà. Toi, t'en penses quoi ?
On peut écouter aussi les discours des grévistes du groupe Accor. Donc là, c'est les femmes qui travaillent dans les hôtels, dans les chaînes d'hôtels, et qui font des piquets de grève depuis des mois, voire des années.
Oui, il y a notamment un épisode du podcast La Poudre, chez Nouvelles Écoutes, qui a donné la parole à Rachel Keke, qui est porte-parole des femmes de chambre de l'hôtel Ibis, et qui raconte très bien les conditions de travail. Il y a également un épisode du podcast Un podcast à soit chez Arte, qui s'appelle « Qui gardera les enfants ?» et qui évoque la question moins de l'aide ménagère que de la garde d'enfants. Voilà. Bon, quant à nous, je l'espère, on a fait le tour de la question de la pornographie féministe. Vous pouvez retrouver toutes les références dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux @quadmeuf. Et nous laisser des étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide à être référencés. Quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour un épisode court où l'on parlera d'une série turque dont tout le monde parle. Salut, merci Pauline.
Salut Clémentine.
Quad Meuf est une émission de Nouvelles Écoutes. Rédaction en chef Clémentine Gallo.
Avec la journaliste chroniqueuse Pauline Verdusier.
Mixage Laurie Galigani. Prise de son Adrien Beccaria à l'arrière-boutique. Générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux. Réalisation, montage et coordination, Ashley Tola.